This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir au Kenya et au Mexique, deux pays à la une d'ailleurs dans le monde avec Olivier Poujade. Culture, Ilana Mor-Youssef viendra nous parler du roman Sous la même étoile de Dorit Rabinian. Le livre fait polémique en Israël. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur le rachat de la maison natale de Nina Simone aux États-Unis. Tout de suite, l'affaire François Fillon vue de l'étranger.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Des élections déterminantes vont se dérouler dans les semaines et les mois qui viennent en Europe, Pays-Bas, France et Allemagne. La presse étrangère regarde de très près ce qui va se passer chez nous pour savoir si après le Brexit et Donald Trump, la France sera le prochain pays emporté par la vague populiste ou si elle sera au contraire le premier pays à y résister. C'est ce qui explique, en plus de son caractère totalement inédit, la couverture donnée à l'affaire François Fillon. Les correspondants de France Inter à Berlin, Londres, Bruxelles et Washington sont avec nous ce soir et ici en studio, je salue deux confrères étrangers à Paris. Bjørn Willum, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant donc dans la capitale de la radio publique danoise. Stefano Montefiori, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant à Paris du quotidien Corriere della Sera. J'imagine que vous avez suivi la conférence de presse de François Fillon. La journée était totalement folle dans la campagne présidentielle française hier et encore un peu aujourd'hui. Comment en avez-vous rendu compte pour vos lecteurs italiens?
On a surtout souligné les propos de François Fillon sur son assassinat politique, qui sont des propos très violents, qui ne sont pas sans rappeler un peu la rhétorique qui a été longtemps celle de Silvio Berlusconi, c'est-à-dire un complot de la magistrature, un complot des juges et d'une partie des médias, la partie plus à gauche des médias. C'était souvent...
Ça, c'est un grand classique. C'était un grand classique de la vie politique italienne.
Voilà, absolument. Pendant des années.
Est-ce qu'il y a, de la part de vos lecteurs italiens, un intérêt, un appétit pour la présidentielle française?
Oui, j'ai l'impression, oui, tout à fait. D'autant plus que c'est déjà le cas toujours dans les présidentielles précédentes. Mais cette fois-ci, c'est encore plus important parce qu'il est bien clair que une éventuelle victoire de Marine Le Pen pourrait mettre en cause toute la construction européenne, donc avoir des conséquences directes sur la politique et sur la vie quotidienne de tous les citoyens européens, italiens compris.
Et vous alors, Bjørn Willum, les Danois sont eux aussi en appétit, ont de l'intérêt pour ce qui se passe ici en ce moment?
Oui, ça commence à intéresser. Moi aussi, j'ai fait un gros sujet là-dessus hier. On l'a suivi ça de tout près. À la fois l'attaque contre le juge, mais aussi j'ai remarqué le fait qu'il s'est quand même contredit énormément de fois. Donc non seulement il est accusé d'avoir détourné des fonds pour son propre profit, aussi celui de sa femme, mais aussi qu'il a énormément se contredit. Une semaine, il dit pour essayer de faire que patte blanche, j'ai un compte bancaire. La semaine prochaine, j'assiste à la conférence de presse où il y a une dizaine. D'abord, il dit mes enfants, ils m'ont assisté parce qu'ils étaient avocats pour des missions très concrètes. La semaine prochaine, on sait, non, en fait, ils étaient étudiants en droit. D'ailleurs, ils étaient engagés pendant tout son mandat au Sénat. Donc, il y a tout ce genre de choses qui fait que pour nous, en toute façon, au Danemark, il aurait perdu crédibilité depuis très longtemps. Et je crois que ça commence aussi à être le cas en France.
C'est impensable chez vous.
Ouais, c'est impensable. Si ça s'est reproduit, je pense qu'il serait cuit tout de suite, ou sinon on l'aurait poussé à démissionner. Je veux dire, c'est pire.
Et les Danois regardent la France comme un pays exotique de ce point de vue-là.
Ouais, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de scandale. Hein. vous avez un ancien président, Jacques Chirac, qui a été si vieux parce qu'il a, avant qu'il a été jugé, seulement parce que il s'est caché derrière son immunité. Son successeur Nicolas Sarkozy, vous le savez aussi, il traîne un nombre d'affaires. Voilà, la seule surprise, c'est que maintenant, François Fillon, il a osé faire campagne sur la probité, alors qu'il savait qu'il y avait quelque chose derrière caché.
Restez avec nous, messieurs, évidemment. Intervenez quand vous le souhaitez. On va entamer maintenant notre petit tour du monde et d'Europe. On va commencer par Washington et Londres. La question est donc de savoir comment votera la France après le Brexit, après la victoire de Donald Trump. Bonsoir, Frédéric Carbone.
Bonsoir, Nicolas.
Vous êtes en direct de Washington. La presse américaine, Frédéric, s'intéresse de très près à l'affaire Fillon, de très près à tous les rebondissements de la campagne française.
Effectivement, version anglaise, les soupçons de fake jobs dans l'entourage de François Fillon sont de plus en plus présents dans les journaux américains. Ce matin, grande photo de François Fillon et article d'une demi-page dans le New York Times qui constate, comme notre confrère danois à l'instant, que l'image d'un candidat qui a fait toute sa campagne sur la probité est complètement brisée, alors que USA Today s'étonne que François Fillon refuse de quitter la course malgré la perspective d'une mise en examen. Même type d'interrogation dans le Washington Post qui remarque que même dans un pays où le népotisme est assez banal dans la classe politique, ces accusations d'emploi fictif sont d'une autre nature. Le Wall Street Journal titre pour sa part, vous voyez que tous les journaux en parlent ce matin, sur les attaques contre le système judiciaire de deux des principaux prétendants, François Fillon et Marine Le Pen. Et si les projecteurs sont autant braqués sur la France, Nicolas, c'est que pour le Washington Post, l'effritement de la candidature Fillon, grand favori jusqu'à lors du scrutin, constitue un bouleversement supplémentaire dans une élection que beaucoup considèrent comme un tournant majeur dans une Union européenne incroyablement fragile. Tout ce qui se passe, écrit le Washington Post, ne peut que renforcer la campagne de la candidate de l'extrême droite.
Oui, parce que c'est l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen qui est scrutée de près, hein, chez vous.
Absolument. Dans un éditorial, le Wall Street Journal écrit ainsi, le Front National a toutes les chances d'être en tête au premier tour. Cela aurait été un tremblement de terre il y a peu, mais nous n'en sommes plus là. Tout le monde accepte l'idée que Marine Le Pen soit finaliste et la seule question semble être de savoir si elle pourra gagner. Alors la presse américaine va sur le terrain chercher au-delà des analyses et des soubresauts de la campagne les raisons profondes du malaise français. Le New York Times s'est ainsi installé à Albi, sans autre raison particulière qu'il s'agit d'une ville moyenne et que l'auteur du reportage y avait fait un premier voyage au début des années 80. Et à Albi donc, Adam Nociter ausculte les peurs face au déclin d'un mode de vie à la française dont Marine Le Pen se pose désormais comme la protectrice. Il passe devant la dernière école du centre historique fermé l'an dernier, puis devant les rideaux baissés du dernier magasin de jouets de la ville. Un élu local lui explique que 15% des logements anciens sont vacants. Un autre déplore la fin de la convivialité qui était la marque de ces villes moyennes. Politiquement, écrit Adam Nociter, Albi est une ville traditionnellement centriste, mais toutes les conditions d'une forme d'anxiété politique y sont réunies. Et il cite le propriétaire du magasin de jouets récemment fermé qui parle d'une ville qui reste magnifique. Mais pour les touristes, la presse américaine, Nicolas, va continuer à sillonner la France comme elle l'a rarement fait pendant une campagne électorale.
Frédéric Carbone, en direct de Washington, merci. Et bonsoir Antoine Gignot, en direct de Londres.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Les Britanniques, Antoine, s'intéressent surtout aux conséquences économiques de l'affaire Fillon.
Et les Anglais ne font pas dans la demi-mesure. La débâcle, c'est le mot utilisé par le Financial Times, la débâcle d'hier ajoute à l'impression générale de bouleversement de l'élection française. Une élection dont le résultat est plus imprévisible que jamais. Préoccupation grave pour les milieux financiers ici. Je vous cite un passage du journal. Impossible de prédire la direction que va prendre la deuxième plus grande économie de la zone euro. Conséquence, et là ce sont des faits, conséquence, la dette française, qui a toujours été considérée comme un placement sûr, intéresse de moins en moins les investisseurs. Le rendement des obligations à 10 ans, qui était monté jusqu'à 1,14% le mois dernier, ne dépasse désormais pas 0,91%, écrit le Financial Times, et il affiche, ce journal, le visage de la peur en grand, avec le portrait de Marine Le Pen incrusté sur un billet de banque. Le Financial Times qui s'interroge, les Français sont-ils obsédés par l'argent de la même manière que nous le sommes par le sexe chez nous en Grande-Bretagne? Un scandale politique commence souvent avec la question qui couche avec qui. En France, ce serait plutôt cette question, comment se fait-il que ce gars-là gagne autant, avec cette réflexion que je vous livre. En France, vous avez le droit de ne pas faire attention à la fraternité ou même d'oublier la liberté, mais surtout pas l'égalité.
Et pendant ce temps, Antoine, le Guardian, lui, évoque la lente agonie du candidat Fillon.
Absolument, même s'il prouve que sa femme a bien effectué le travail pour lequel elle a été rémunérée, explique le quotidien de gauche, le Penelope Gate pourrait bien être un poison lent pour la campagne. Le Guardian qui dénonce aussi, comme vous l'avez dit dans d'autres pays, le manque de principe général de la classe politique française. Pendant des décennies, elle est apparue comme un univers moral morale parallèle, écrit le journaliste, où les politiciens poursuivaient leur mandat et se représentaient sans être inquiétés par les affaires en cours. Le Guardian qui conclut, au cas où François Fillon soit élu en mai prochain, comment expliquera-t-il aux électeurs qu'il veut supprimer 500 000 emplois dans le secteur public en donnant plus de travail aux fonctionnaires qui gagneront moins d'argent? Il risque d'avoir du mal à convaincre.
Antoine Gignot en direct de Londres, merci. Björn, vous vouliez dire un mot sur Washington ou Londres?
Non, pas vraiment.
Alors vous vouliez, non?
Oui. En Stéphane, fait, c'était pour souligner qu'il y a un risque dans cette situation. C'est-à-dire que c'est produit encore, que ça se produit des choses qui sont apparues en Italie, c'est-à-dire une véritable chasse aux sorcières d'une part et de l'autre. On a commencé il y a très longtemps à mettre en cause la classe politique pour des problèmes de moralité. On n'a jamais fini. C'est aussi encore les mouvements 5 étoiles qui il est arrivé au pouvoir à Rome sur une base des probités, justement des moralisations de la vie publique, et bouleversé par des scandales. La maire de Rome, Virginia Raggi, est frappée par des scandales. Donc, d'un côté, c'est tout à fait légitime et juste pour chasser les crimes, donc soutien à la magistrature. De l'autre côté, il y a un risque que la vie politique soit perturbée à jamais pour ce genre d'affaires.
Björn ?
Oui, je pense qu'il y a une chose qui me frappe dans la couverture de ce scandale Fillon, c'est qu'il y a aussi, du côté Marine Le Pen et Front National, il y a aussi énormément de choses. Et en fait, les sommes qui sont en jeu pour le Front National sont peut-être beaucoup plus importantes dans leurs divers scandales que sont celles de François Fillon. Aujourd'hui, par exemple, ils sont un excellent bouquin sur lequel je viens de faire un sujet, le procès interdit de Marine Le Pen, enquête sur une machine à cash, où l'auteur Laurent Fargue décrit très bien comment il y a un système de surfacturation presque systématique au niveau de Front National quand ils achètent leurs affiches et tout leur matériel de campagne pour remplir les caisses du Front National, du parti, sur fond de remboursement public. Or que la presse française, il peut, si on ajoute aussi l'affaire des assistants parlementaires fictifs au Parlement européen, tout ça ensemble, il s'agit probablement de beaucoup plus d'argent de François Fillon. Or que la presse française ne le traite pas du tout de la même manière. Ça me surprend quand même.
Et vous parvenez, pour ce qui est du public danois, de faire un traitement équitable entre les deux affaires?
J'essaie de le faire. Hier, on a fait sur Fillon. Aujourd'hui, comme je dis, je fais sur Marine Le Pen, parce que pour moi, ces deux affaires qui sont quand même, ils se pensent un peu similaires, mais c'est la même chose. Et je veux juste ajouter aussi qu'au Danemark, on a aussi l'extrême droite très fort. Eux aussi, ils ont fait un truc un petit peu pareil, où ils ont eu des fonds européens qui sont censés pour qu'on les a donnés pour organiser des meetings européens pour discuter des choses. En fait, ils les ont utilisés pour juste parler de la politique dans le cadre de partis danois, ce qui n'a rien à voir. Eux, quand ça s'est survenu, ils se sont mis à plat. Le parti du chef a dû s'excuser publiquement, je ne sais pas combien de fois. La personne qui l'a fait, il a dû se mettre en congé et tout ça. Or qu'ici, en France, Marine Le Pen, elle fait tout l'inverse. Donc c'est vraiment une autre culture.
Stefano Montefiori.
Oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre les affaires de Marine Le Pen et François Fillon, non pas seulement sur le mérite des affaires, mais aussi sur le fait que Marine Le Pen, de toute façon, est plus, d'une certaine sorte, elle est plus crédible quand elle dénonce un complot du système contre elle, parce qu'elle se pose depuis toujours comme une force anti-système, alors que François Fillon est un ancien Premier ministre, elle a fait toute sa campagne sur la probité. Le 28 août, elle a prononcé la célèbre phrase « Qui peut imaginer le général de Gaulle sous examen ?» Et là, donc, ces affaires, c'est vrai qu'ils lui font des dégâts beaucoup plus importants.
Que ce soit donc sur la sortie de la France de l'euro, l'une des propositions du Front National, que ce soit sur une Europe minimale, une Europe par cercle, l'issue du vote français sera déterminante pour l'Union européenne et pour l'Allemagne. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Petit écart entre mes questions et vos réponses, Quentin. La bulle européenne s'étonne de la résistance de François Fillon.
Oui, et dire que les milieux européens sont sidérés depuis 6 mois par l'évolution de la vie publique en France, ce serait être encore en dessous du vrai, car s'ils sont habitués aux multiples péripéties politiques dans nombre des 28 pays de l'UE, ils ne s'attendaient pas à cela de la part de la France. On se croirait en Bulgarie, disait ce matin un élu centriste néerlandais.
Et voilà, petit problème de liaison avec Quentin Dickinson.
Mathieu siège au Parlement, il pille l'État, ils évitent la prison en se raccrochant à leur immunité parlementaire.
Oui, Quentin, on a du mal à vous joindre. La ligne saute de temps en temps. On va essayer de se reconnecter avec vous. D'ici là, on passe à Berlin. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Quelle réaction alors chez vous en Allemagne à la conférence de presse de François Fillon ?
Eh bien, signe que cette campagne française suscite maintenant une vraie curiosité ici. La conférence de presse a été largement relayée. La presse allemande qui a de plus en plus de mal à comprendre comment François Fillon peut bien encore être candidat à l'Élysée. Il faut dire qu'en Allemagne, des ministres, des responsables politiques ont jeté l'éponge pour beaucoup moins que ça. Et par ailleurs, l'emploi de proches comme collaborateurs parlementaires est ici étroitement encadré. Mais ce qui frappe les éditorialistes, c'est le ton adopté hier par François Fillon face à la justice, face aux médias, pour le journal Die Welt. Cette conférence de presse est le premier moment Trump de la campagne présidentielle. Le quotidien conservateur parle d'un tournant populiste. Le candidat de droite s'est présenté comme un partisan de la théorie du complot. Une attitude qui abîme la démocratie, écrit l'éditorialiste de Die Welt.
Et puis il faut noter aussi Cyril, l'embarras d'Angela Merkel qui avait affiché très clairement son soutien au candidat des Républicains.
Oui, c'était fin janvier à Berlin. 48 heures avant les révélations du canard enchaîné, Angela Merkel recevait François Fillon comme un chef d'État dans son bureau à la chancellerie, alors qu'habituellement elle préfère accueillir les politiques au siège de son parti. Bref, il n'y avait pas d'ambiguïté pour la chancelière. François Fillon était le bon candidat, un allié naturel pour la CDU et le seul à même de faire barrage à l'extrême droite. Autant dire que deux jours plus tard, les Allemands tombaient de l'armoire. Depuis, Angela Merkel s'est bien gardée de commenter les suites de l'affaire, mais elle a tenu à faire savoir qu'elle était prête à rencontrer d'autres candidats à l'Élysée. Emmanuel Macron ne s'est pas fait prier, lui qui n'avait pas pu obtenir de rendez-vous lors de sa précédente visite à Berlin. Il devrait revenir dans une dizaine de jours pour un entretien en bonne et due forme. Mais d'après Michaela Wiegel, qui est la journaliste de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le camp Fillon tente de faire en sorte que cette rencontre Macron-Merkel n'ait pas lieu.
Et puis chez vous aussi, Cyril, en Allemagne, l'hypothèse Marine Le Pen est désormais prise extrêmement au sérieux.
Et oui, cette hypothèse ne semble plus impossible. Qui pourra l'arrêter, écrivait même dernièrement la Süddeutsche Zeitung, qui a ouvert un forum de discussion sur son site internet où les lecteurs partagent leurs angoisses face à un retour possible de l'extrême droite au cœur de l'Europe. Après le Brexit et l'élection de Trump, une victoire du FN sonnerait à coup sûr la dislocation de l'Union européenne, un immense coup de froid pour le couple franco-allemand, alors même que Berlin a plus que jamais besoin de Paris pour relancer le projet européen.
Cyril Sauvage en direct de Berlin. Merci. On n'a pas retrouvé Quentin Dickinson à Bruxelles. Björn et Stefano, deux mots pour finir. Vous allez suivre quoi maintenant précisément dans la campagne présidentielle française ? Est-ce que comme le New York Times, vous allez partir en reportage dans le pays ou rester à Paris, suivre déjà ce qui se passe autour des Républicains notamment ?
Oui, c'est vrai que ces jours-ci, le centre de l'attention était plutôt ancré à Paris. Aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui a présenté finalement son programme. D'ailleurs, là aussi, je suis avec attention les quelques mots qu'Emmanuel Macron a dédiés à ses propres présumées affaires, parce que déjà, soit hier, soit ce matin, le numéro du FN, Florian Philippot, a évoqué des scandales financiers à venir concernant Emmanuel Macron. Je trouve qu'il s'est très bien défendu, mais de toute façon, je remarque qu'il y a vraiment un climat difficile, lourd, par rapport au candidat de la présidentielle, comme quoi chaque candidat doit s'attendre à des révélations d'ici le 23 avril.
Et pour vous alors, vous allez suivre quoi, Björn, pour la radio danoise ?
Je pense qu'évidemment, on le laisse faire pour voir où ça va s'en sortir avec le Républicain et combien de temps M. Fillon il va tenir, mais surtout aussi le programme qui vient d'être dévoilé de M. Macron, surtout la réforme des travail, ses projets pour l'Europe. Et c'est ce que je trouve aussi, je ne sais pas si c'est étonnant, mais peut-être plutôt positif, c'est que quand même cette campagne, il se concentre beaucoup aussi sur l'économie, les problèmes des chômages, des jeunes, etc. Et pas seulement sur la sécurité, le terrorisme, c'est ce qu'on pourrait croire avec tout ce qui vient de se passer ces derniers deux ans en France.
Merci à tous les deux, Björn, William, bonne campagne présidentielle française, correspondant à Paris de la radio publique danoise. Stefano Montefiori, correspondant à Paris du quotidien Corriere della Sera. Merci évidemment aux correspondants de France Inter à travers le monde et l'Europe. Dans quelques instants, le journal de l'international. 18h36. Merci d'écouter Inter. Simon et Garfunkel, Mrs. Robinson, bien entendu. Le journal de l'international.
Datiadas 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Direction le Kenya ce soir où les médecins du service public sont en conflit ouvert avec le gouvernement. Une grève qui dure, Olivier, depuis pratiquement 3 mois.
Résultat, la quasi-totalité des Kenyans se retrouvent actuellement sans aucune couverture de santé. Et plus le temps passe, plus la situation se dégrade dans les hôpitaux, dans les cliniques désertées par les docteurs. Les patients en phase terminale sont renvoyés chez eux. Les accouchements se font à la maison sans aucune assistance. On parle déjà de centaines de victimes collatérales. Pour évoquer cette situation d'urgence, Bruno Meyerfeld, notre correspondant au Kenya, est en ligne. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bruno, vous avez rencontré l'une des victimes de cette grève interminable.
Oui, il s'appelle Ronald Odhiambo, il a 32 ans, il est marié et son premier fils, John, est né le 5 décembre, le jour où la grève des médecins a commencé, mais l'accouchement ne s'est pas passé comme prévu.
À la naissance, le ventre de mon fils était très gonflé, sa peau toute distendue, il souffrait. On n'osait à peine le toucher, il battait des bras et n'arrêtait pas de crier.
Ronald et son épouse découvrent que les reins et l'urètre de leur fils sont bloqués, qu'il faut opérer en urgence, mais impossible pour eux de payer une clinique privée. Les semaines passent et l'état du bébé empire.
En revenant du travail, j'ai retrouvé mon fils dans un état critique. J'ai couru à l'hôpital public. Ils m'ont dit que mon enfant devait être opéré le plus vite possible. Mais aucun docteur n'était là. On a essayé de les appeler, mais aucun ne répondait. On ne pouvait rien faire. Alors avec ma femme, nous nous sommes mis à prier, prier de toutes nos forces. On disait à Dieu, il n'y a plus que toi qui puisse nous aider. Mais aucun docteur n'est venu et mon fils est mort juste comme ça.
Et malheureusement, Bruno, on ne parle pas d'un cas isolé, hein.
Non, pas du tout. Et pour se rendre compte de la situation, il faut se rendre à l'hôpital public Kenyatta de Nairobi. C'est le plus grand du pays, le mieux équipé aussi. Mais depuis 3 mois, il est à l'arrêt. Des brancards s'entassent au soleil, des patients errent dans les couloirs. Moses Osani de l'Association du cancer du Kenya m'emmène dans la salle des chimiothérapies. Il n'y en a que 2 comme celle-ci dans tout le secteur public au Kenya. Mais aujourd'hui, faute de docteurs, elle est complètement vide.
Pour administrer une chimiothérapie, il est indispensable d'avoir l'assistance d'un docteur. Malheureusement, plusieurs personnes sont mortes car ils n'ont pas pu terminer leur traitement à cause de la grève. À l'hôpital Kenyatta, les patients dépendants du secteur public sont renvoyés de force chez eux.
Alors malgré un prix très élevé, quelques milliers de Kenyans tentent malgré tout leur chance dans les cliniques privées du pays. Mais plusieurs sont déjà complètement débordés et se sont même mis en grève, rappelle Moses Hosseini.
Dans le secteur privé, ils sont débordés et en sous-effectif. Je connais des patients très pauvres qui vont quand même essayer de se faire soigner dans le privé. Mais dans certains endroits, quand on se rend compte qu'ils ne peuvent pas payer les soins qu'ils ont reçus, on les retient de force de l'hôpital jusqu'à ce que quelqu'un de leur famille leur vienne en aide.
Alors Bruno, que demandent les syndicats de médecins ?
Alors, ils exigent la mise en place d'un accord signé en 2013 avec le gouvernement. Celui-ci prévoit une rénovation des hôpitaux et une hausse des salaires. Il faut savoir qu'au Kenya, un docteur diplômé gagne entre 350 et 1000 euros maximum par mois, avec des semaines qui dépassent parfois les 100 heures de travail. Alors, pas question de lâcher, explique Uma Oluga, secrétaire général de la KMPDU, le syndicat qui a appelé à la grève.
Nous avons une immense compassion pour les patients. Nous comprenons leur douleur et nous l'éprouvons nous aussi. Mais nous nous battons pour que les conditions de santé s'améliorent pour tous, pour qu'aucun Kenyan n'ait plus à attendre des heures à l'hôpital pour voir un docteur, lui-même totalement épuisé. C'est pour les Kenyans qu'on mène cette bataille. Il faudrait justement que le grand public mette davantage de pression sur le gouvernement pour que cette grève se termine, qu'on puisse retourner à l'hôpital et que tout rentre dans l'ordre.
Alors, la fin de la grève, Uma Oluga le dit, elle n'est a priori pas pour demain. Le syndicat négocie avec l'État, mais les désaccords sont encore très nombreux. En attendant, les patients souffrent en silence, du moins pour l'instant.
Les conséquences effroyables du conflit social des médecins kényans. Reportage de notre correspondant à Nairobi, Bruno Meyerfeld.
Et on file au Mexique, Olivier, pour une idée assez singulière de tourisme thématique.
Le Corruptour, Nicolas, vient d'être lancé à Mexico. Alors, il s'agit d'un bus, un peu comme ceux qui offrent des vues à ciel ouvert dans toutes les capitales du monde. Mais ce bus mexicain parcourt, lui, les lieux emblématiques de la corruption. Ça se passe tous les dimanches. Une vingtaine de passagers embarquent pour une balade informative d'une heure et demie à travers les symboles de la déchéance du système politique. Notre correspondante à Mexico, Emmanuel Stil, nous emmène faire un tour.
Bienvenue à cette balade très spéciale, j'ai nommé le Corruptour. Un ancien bus scolaire, un peu déglingué, se ferait un passage dans le trafic du dimanche après-midi dans le bois de Chapultepec. C'est un nouveau concept de tour thématique à travers Mexico. Un bus au toit ouvert, 25 passagers à bord et un parcours comprenant 10 étapes qui invite à réfléchir sur la corruption, la principale préoccupation des Mexicains. Après une brève introduction, le bus entame une incursion dans le quartier très huppé de Las Lomas. Première halte, le Corruptour tape fort à l'échelon le plus élevé du pouvoir. La Casa Blanca, la Maison Blanche, c'est une majestueuse villa, propriété de l'épouse du président Enrique Peña Nieto, l'ancienne star des telenovelas Angélica Rivera. Le couple y habitait au début du mandat présidentiel, jusqu'en 2014, lorsque le scandale éclate. Cette demeure, d'une valeur de 7 millions de dollars, est au nom d'une entreprise de construction, prestataire de l'État, qui avait décroché le contrat pour construire la première ligne de TGV au Mexique. Le président demanda pardon publiquement, sans jamais reconnaître le conflit d'intérêts. Attention, dit la guide du Corruptour, le but de ce parcours n'est pas de vous décourager, il s'agit plutôt de prendre conscience de la corruption et de ne pas y participer. Le bus se dirige ensuite vers plusieurs dépendances du gouvernement où d'autres affaires troubles ont éclaté ces dernières années. Sur un rond-point de l'avenue Reforma, l'anti-monument est en réalité un hommage aux victimes de disparition. Le chiffre 43, en grandes lettres rouges, rappelle les 43 étudiants disparus en 2014 dans le sud du Mexique, aux mains de policiers municipaux complices d'un cartel de narcotrafiquants. Lorsque le bus parvient devant le ministère de l'Intérieur, un commentaire humoristique est lancé pour expliquer les complicités dont a bénéficié le baron de la drogue, Joaquín Guzmán, dit El Chapo, pour s'évader de prison par un tunnel partant de la douche de sa cellule. Gerardo, un jeune architecte, nous explique qu'il est révolté par le système politique actuel.
Ce qui me rend le plus triste, c'est le problème du trafic de drogue. C'est toujours la même histoire. Les narcotrafiquants s'enrichissent, ils acquièrent un pouvoir grandissant et ils finissent par devenir nos gouvernants. Donc nous sommes gouvernés par des fous.
Le bus s'arrête devant Televisa, le groupe médiatique qui a construit l'image du couple présidentiel. Finalement, le Corruptour propose aux participants quelques actions concrètes pour agir au quotidien contre la corruption. Et ceux-ci abandonnent le bus, partagé entre l'amusement et le dépit.
Voilà, le incroyable. Premier tour opérateur contre la corruption. Incroyable, effectivement. Une invention mexicaine, un reportage signé Emmanuel Stills.
Et une autre initiative pour dénoncer la corruption, Olivier, qui nous vient cette fois-ci du Brésil.
Presque une évidence, Nicolas, le Brésil où une grande partie de la classe politique est éclaboussée par le scandale Petrobras. L'école de samba de San Clemente a choisi cette année comme thème de défilé l'histoire du surintendant Nicolas Fouquet, accusé de corruption par Louis XIV et emprisonné jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, à défaut de
danse
pouvoir...
bien, hein, Anthony Bélanger.
À défaut de pouvoir condamner toute leur classe politique, Nicolas, les Brésiliens se défouleront sur la piste du Sambodrome de Rio, notamment au rythme du carnaval.
Olivier Poujade, merci, 18h49.
Dans une minute, ce sera l'extinction des feux.
Non ! Nous vous prions de nous en excuser.
Ah bon ? Papa loves mambo. Look at him sway with
it. Getting so gay with it. Shout no lay with it. Wow. Un jour dans le monde. Nicolas Demorand sur France Inter.
Ilana Mor-Youssef, bonsoir.
Bonsoir.
Sous la même étoile, roman signé Dorit Rabinian, j'y arrive, Rabinian, a fait polémique, Ilana, lors de sa sortie en Israël. Pour quelle raison ?
Eh bien, c'est un roman qui racontait la passion entre une Israélienne et un Palestinien. Le livre avait été inscrit au programme du bac, mais le ministre de l'Éducation de l'époque, Naftali Bennett, très à droite, l'avait interdit. Sous la même étoile, c'est le titre du roman, paraît cette semaine, en français, dans une traduction de Laurent Cohen. Alors quand on voit la jeune femme plutôt menue qui s'extasie sur le bouquet de roses à la réception de son hôtel, on a du mal à imaginer que Dorit Rabinian a pu être à l'origine d'un scandale national dans son pays. Elle a d'ailleurs été la première surprise de devenir du jour au lendemain une célébrité.
Leur décision de supprimer le livre des programmes scolaires est absolument sans précédent en Israël. Je suis un produit de la démocratie. Je suis né en Israël, j'ai été élevé dans le système éducatif israélien. Je suis tellement habitué à la liberté d'expression que je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver.
Sous une même étoile est le troisième roman de Dorit Rabinian. Il raconte donc l'histoire d'une passion entre Liat, jeune traductrice, et Hilmi, artiste peintre palestinien. Ils se rencontrent à New York, loin de la terre convulsive qui les a vus naître.
Et ce récit, Ilana, inscrit donc au programme du bac, a provoqué la colère du ministre de l'Éducation qui a ordonné son retrait.
Oui, le ministre estimait que ce roman constituait une menace pour l'identité juive. Résultat, eh bien, le livre s'est arraché, raconte Dorit Rabinian.
Les ventes du livre ont doublé. Beaucoup d'Israéliens ont acheté le livre et ils ont pris des photos avec, ils les ont postées sur les réseaux sociaux. Il disait, je ne vais pas acheter juste un exemplaire, je vais en acheter 5, 6, 7, je vais les offrir à des enfants, parce que ce livre encourage au dialogue. Il y a un personnage arabe à qui on peut s'identifier, un homme palestinien qui n'est ni un démon, ni une caricature, c'est un être humain.
Mais Dorit Rabinian tient tout de même à souligner qu'elle n'a pas écrit, hein, Ilana, son roman, dans un esprit de provocation, absolument pas.
Mais non, pas du tout. Elle ne se considère pas du tout comme une radicale. Elle a voulu explorer, en fait, les conflits intérieurs de ses personnages, chacun prisonnier de ses préjugés sur l'autre. C'est d'ailleurs un récit qui est largement autobiographique. Si c'était évident pour elle, si elle était affranchie des limites qu'elle transporte avec elle jusqu'à New York, alors il n'y aurait pas d'histoire, car il n'y aurait pas de conflit. Je ne voulais pas raconter une histoire d'amour, je voulais raconter la bataille contre l'histoire d'amour. Il faut des personnages qui sont en proie à un conflit intérieur qu'ils portent comme un fardeau. Alors devant l'ampleur de la protestation, finalement, le ministère de l'Éducation a fini par revenir sur son interdiction et Dorit Rabinian est désormais traduite aussi à l'étranger.
Sous une même étoile, donc, traduit de l'hébreu par Laurent Cohen et publié aux éditions Les Escales, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Merci beaucoup, Ilana Mor-Youssef.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous avez été très touché par un article du New York Times.
Oui, un très beau papier, effectivement, très émouvant, sur la chanteuse américaine et militante des droits de l'homme, Nina Simone. Vous savez, une légende du jazz et de la chanson, décédée en 2003 à 70 ans. Or, sa maison natale à Tryon, en Caroline du Nord, était en vente l'année dernière. L'article raconte comment quatre artistes noirs américains, le conceptualiste Adam Pendleton, le sculpteur et peintre Rashid Johnson, la vidéaste et plasticienne Ellen Gallagher et la peintre Julie Mehretu ont racheté cette maison pour en faire un musée. Alors, ça n'a rien d'évident hein, comme ça, parce que récemment, les maisons natales de Malcolm X et de Webb Dubois, deux autres grandes figures de l'histoire noire américaine, ont aussi été vendues avant que l'on puisse même rassembler l'argent nécessaire à leur rachat. Cette fois-ci, pas question de laisser passer une pareille occasion. Les quatre artistes ont surenchéri et l'ont emporté pour 95 000 $. Une fois la vente conclue, encore fallait-il mettre en place un vrai projet pour faire de cette modeste maison de bois, pour tout vous dire, un lieu de mémoire.
Et j'imagine que la personnalité de Nina Simone a inspiré ce sauvetage, Anthony, et le projet qui l'accompagne maintenant?
Bien sûr. En fait, racheter la maison de Malcolm X, par exemple, aurait eu un sens, hein, mais pas celui que veulent insuffler les quatre artistes new-yorkais. Malcolm X, vous savez, c'est une figure controversée du mouvement de libération des Noirs américains, pas Nina Simone. Pourtant, elle est née en 1933 dans cette maison de Tryon, donc, qui était à l'époque une ville ségrégée, Tryon, c'est-à-dire où Noirs et Blancs étaient strictement séparés. Mais ce sont aussi des Blancs de Tryon qui, fascinés par ses dons musicaux, ont payé ses cours de piano et son lycée. C'est aussi là qu'elle a résisté pour la première fois. Elle avait 11 ans, elle devait jouer devant une salle pleine et ses parents avaient été placés au dernier rang, la ségrégation, je vous dis. Et elle a refusé de jouer tant qu'il ne serait pas mis au premier rang, comme les autres parents. En fait, il y a chez Nina Simone à la fois un engagement militant fort et une volonté de diviser les divisions, de dépasser les divisions raciales par la musique et par l'art.
Et donc, ce projet est très politique, en fait, cette restauration.
Oui, tout à fait. Un projet politique, humaniste et artistique qui parie sur ce qui a toujours été au cœur du mouvement noir américain, le militantisme de terrain au plus près des discriminations et des problèmes. Ce projet de musée Nina Simone prend en quelque sorte acte de l'impuissance de Barack Obama à faire avancer la question raciale, vous savez, d'en haut, depuis la Maison Blanche. C'est en manifestant, en se mobilisant, en s'organisant et donc en entretenant la mémoire de figures consensuelles du mouvement noir que la division raciale pourra être réduite, c'est ce que nos artistes pensent, du mouvement Black Lives Matter à Nina Simone.
Mais on peut aussi avoir l'ambition de redonner un président noir à l'Amérique et c'est ce qu'envisagerait Oprah Winfrey.
Oui, c'est pas tout à fait le même calcul, mais d'abord, qui est Oprah Winfrey?
Oui.
Voilà. Avant tout, c'est depuis 30 ans une star de la télévision américaine, au point qu'elle a aujourd'hui sa propre chaîne de télé. Mais dire ça, ça ne suffit pas à épuiser le personnage. Pour comprendre, il faudrait créer en France une chimère qui mêlerait Omar Sy pour la popularité et Simone Veil pour le respect qu'elle inspire. Oprah Winfrey près, donc, a laissé savoir qu'elle pourrait envisager de se présenter en 2020. Vous savez, son calcul est très simple. Si Donald Trump, lui aussi starifié par la télé, a réussi à entrer à la Maison Blanche, pour le pire, pense-t-elle, pourquoi pas elle, pour s'opposer à un machiste télévisuel, il faudra donc une diva télévisuelle. Mais que voulez-vous, moi, plutôt qu'un combat de star télévisuel, je préfère les sublimes mélopées de Dinah Simone. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high. Then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age as he spoke. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Said his name, Bojangles, then he danced the lick across the sand. He grabbed his pen, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South.
Désolé d'interrompre Nina Simone, c'était le cadeau d'Anthony Bélanger. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur ce qu'on appelle les super bactéries. Elles ont comme caractéristique, voilà, de résister aux antibiotiques. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a sonné l'alarme il y a quelques jours sur ces bactéries qui peuvent susciter de très graves infections, septicémie, infections urinaires, pneumonie. Les antibiotiques, y compris les plus récents, sont donc parfois inefficaces. Et l'OMS appelle à intensifier la recherche et le développement pour trouver de nouveaux médicaments. Vos questions 01 45 24 7000 et franceinter.fr.